Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et si trahir était bon pour nous et pour ceux qui nous entourent, à partir de quand les trahisons deviennent-elles nécessaires? Nous ne parlerons pas ce matin de la très haute trahison que constituent par exemple les maltraitances, les violences verbales et physiques, les abus sexuels ou encore l'inceste dans le cadre de la famille ou de l'infidélité dans le cadre du couple, mais de ces trahisons familières qui nous empêchent d'être soi, par peur du conflit de loyauté, par faiblesse, par routine, quand on se force par exemple à avoir des amis avec lesquels on ne partage plus grand chose ou quand on s'oblige à se conformer à des désirs professionnels parentaux qui ne nous correspondent pas du tout. Nous verrons pourquoi trahir peut devenir un acte d'indépendance à condition de se dégager de la vision traditionnelle du traître type Judas ou Brutus et comment trouver le courage de rompre certains liens, certains engagements qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Pour éclairer notre lanterne, nous recevons la philosophe et psychanalyste Nicole Prieur. Racontez-nous pourquoi il vous a été vital de faire le deuil de certains liens pour devenir vous-même au 01 45 24 7000, sans oublier de réagir sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Qui ne me trahira jamais.
Non.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle. Petit avant-goût de vos questions pertinentes.
Et oui, comment assumer la trahison éthique vis-à-vis de ceux qu'on a trahis, vivre pleinement ses choix en limitant les dommages collatéraux.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous remplacez Eric Libio cette semaine. Quel est le menu de vos choses presque vues?
Eh bien, on va faire une petite infidélité à ce studio en allant sur une île presque déserte.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Quoi pensez-vous?
À votre trahison.
J'ai fait ce qui me semblait le mieux pour vous étant donné l'état dans lequel vous étiez.
Vous m'aviez promis. Ça s'appelle une trahison.
Alors parlons-en.
Et on va donc parler ce matin des trahisons nécessaires, extraits de la série En thérapie sur Arte. Bonjour Nicole Prieur.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous accueillir.
Merci.
Vous êtes philosophe, psychanalyste, spécialisée dans les relations familiales. Et vous publiez chez Robert Laffont, dans une collection dirigée par Fabrice Midal, un livre absolument formidable qui s'appelle Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi. Alors trahir, nous dit le Robert, c'est livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité, c'est passer à l'ennemi, c'est cesser d'être fidèle. Ce n'est pas très reluisant. La trahison est sulfureuse. Hein. Et puis on se souvient de grandes trahisons dans l'histoire ou dans la littérature. Judas qui trahit Jésus, Brutus qui trahit César, Talleyrand qui trahit tout le monde, et ou Iago dans Othello. C'est pas très positif.
Ce n'est pas très positif.
A priori.
Et en tous les cas, effectivement, et j'ai bien aimé l'extrait de En thérapie, parce que justement, c'est ce qui m'avait fait appeler, ce qui m'a amené finalement à parler des trahisons. En thérapie, souvent, les gens disent « j'ai été trahi, il m'a, elle m'a trahi » et ils s'arrêtent à ce niveau-là. Alors que les trahisons, bien qu'elles soient destructrices, bien qu'elles soient dans certaines situations, effectivement, comme vraiment des lieux où tout explose dans notre système, elles peuvent être des moments aussi de grande renaissance. Et il m'avait semblé intéressant, comme dit d'ailleurs Diane dans cet extrait-là, parlons-en. Commençons à aller comprendre un petit peu la complexité de la trahison, et j'ai envie de dire, ne trahissons pas la trahison et rendons-la à sa complexité. C'est très complexe, la trahison.
Et justement, dans votre livre, vous montrez que la trahison n'est pas binaire, du côté du bien ou du mal. Pourquoi faut-il sortir du jugement moral qui condamne la trahison?
Alors, vous parliez tout à l'heure de la définition du petit Robert. En tant que philosophe, à chaque fois que nous commençons à travailler sur un thème, on va regarder l'étymologie. Et l'étymologie est passionnante. Et c'est à partir de là que j'ai effectivement vu que la trahison n'était pas forcément un processus, parce que ce n'est pas seulement un acte. Hein. La trahison, c'est un processus, et ce n'est pas seulement binaire. Parce que le verbe trahir vient du latin tradere. D'accord. Et quand on regarde l'étymologie de départ, tradere, il n'y avait pas cette connotation morale. Tradere, c'est passer. C'est
passer d'un camp à l'autre.
Voilà. Même pas d'un camp, d'un endroit à un autre. Il n'y avait pas cette notion de passer à un camp ennemi. Mais là où je trouvais que c'était intéressant et qu'il fallait vraiment réfléchir un peu plus et sortir du dualisme, c'est que tradere a donné tradition. Et pour moi, c'est vraiment symptomatique de toute notre existence d'être humain. C'est-à-dire que le changement ne peut pas faire l'économie d'un déplacement. Nous nous déplaçons sans cesse de nos parents vers nos amours. Nous nous déplaçons sans cesse.
Et vous martelez dans votre livre, Nicole Prieur, que nul n'échappe à la trahison.
Nul n'échappe à la trahison. Et là où j'ai commencé à faire une distinction entre les traîtres, effectivement, qui ne sont que destructeurs, et les traîtres éthiques, c'est ceux qui complètent le processus. On se déplace, mais on reconnaît d'où on vient. On reconnaît la tradition qui nous a formés, et même si à un moment donné j'ai besoin d'en sortir pour un peu plus m'accomplir, je le fais en reconnaissant d'où je viens. Et ça, c'est important.
Traître éthique, ça ressemble à un oxymore.
C'est un oxymore. Je m'en étais pas rendu compte, sauf un jour dans une conférence comme ça, je parle d'une façon très simple des traîtres éthiques et toute la salle s'est mise à éclater de rire. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et là, je me suis rendu compte que, effectivement, c'est un oxymore, mais qui met en évidence, justement, toute la richesse possible de ce processus si on arrive à le comprendre.
La trahison est inhérente à toute forme de relation.
Oui, à mon sens, alors si vous voulez, c'est vraiment là, j'ose le dire, c'est ma longue expérience de thérapeute, de psychanalyste et de thérapeute familiale aussi, qui m'a mis en évidence que finalement, dans toute relation, il y a de la trahison potentielle. Et il y a de la trahison parce que dans toute relation, et plus elle est importante, plus il y a des attentes. Donc dans toute relation, il y a des attentes portées sur l'autre. Et ces attentes portées sur l'autre sont vraiment très chargées de projections. J'attends que l'autre réponde plus à mes besoins qu'à son propre accomplissement souvent. Et du coup, justement, pour se libérer de ces attentes qui risquent de m'enfermer, je travaille beaucoup avec l'hypnose aussi, qui risque de me ronger un petit peu mes ailes, de m'empêcher de déployer mes ailes, je suis quelquefois obligée de rompre avec certaines loyautés qui me sclérosent. Les loyautés nous construisent, mais beaucoup de loyautés aussi nous sclérosent.
Alors ces trahisons ne sont pas toujours volontaires, mais elles sont inévitables.
C'est ça. Et c'est très important ce que vous dites, Ali, parce que là aussi, combien de fois en tant que parent, j'ai pu voir des parents qui, malgré leur bonne volonté, malgré l'amour le plus sincère, amenaient des enfants justement à se trahir, amenaient des enfants à être vraiment malheureux, quelquefois même détruisaient leur propre enfant, parce qu'on parlait des projections, ils avaient à leur égard trop de projections qui parlaient plus d'eux en tant que parents que de leur propre enfant et de la singularité de leur enfant. Donc effectivement, souvent on est... Alors, ce qui est complexe, c'est que souvent on trahit malgré soi à notre insu, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de mieux comprendre ce processus, pour se sentir quelquefois dangereux pour l'autre, malgré nous. Et aussi, quelquefois, il y a des situations, je pensais à ça tout à l'heure dans le taxi, une situation qui m'est arrivée souvent, en tant que grand-mère, jeune grand-mère, mon fils m'appelle pour savoir, il a besoin de moi parce que les enfants ont 42 fièvres. Évidemment, c'est toujours la même chose. 2 heures après ou 1 heure après, ma mère m'appelle en me disant « J'ai une crise d'angoisse, j'ai besoin de toi, je ne peux pas sortir. » Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de trahir les uns, d'être déloyale. Ce sont les conflits de loyauté. Donc, le traître, ce n'est pas toujours l'autre. Et plus on mesurera que l'on risque d'être soi-même traître à notre insu, plus on pourra devenir éthique aussi.
Ça veut dire quoi, être soi-même? Parce que le sous-titre de votre livre, c'est « S'autoriser à être soi ». Ça veut dire quoi exactement?
C'est terrible comme question.
On pourrait y passer des heures.
Ce que j'ai envie de dire, c'est de toutes les manières, être soi, ce n'est qu'un cheminement. C'est un processus, là encore, qui nous amène à être toujours de plus en plus fidèles à ce qui fait sens pour nous. C'est ce qui m'amène de plus en plus à être cohérent avec ce qui est important, avec les valeurs fondamentales pour moi. Mais là aussi, on n'a pas parlé de ces trahisons qui sont incroyables. Combien de fois je suis appelée et amenée à me trahir moi-même, sans le savoir, sans le vouloir. Donc, être soi, j'ai envie de dire, c'est le but. Tout en sachant que à partir du moment où j'aurai l'impression d'arriver à être moi, déjà j'aurai besoin de me remettre en chemin, parce que déjà j'aurai besoin de me réinventer. Être soi, finalement, vous m'amenez à dire quelque chose qui, voilà, c'est se réinventer sans cesse.
C'est une aventure.
C'est une aventure. Mmh. Une belle aventure dans laquelle la place des autres est infiniment imprenable, finalement, précieuse et nécessaire.
Et comment sait-on que l'on devient soi, vraiment soi?
Alors, si vous voulez, là, peut-être que je vais prendre aussi de mon expérience de thérapeute. Combien de fois, pourquoi j'ai aussi travaillé sur le sentiment de se trahir soi-même? Combien de fois j'ai entendu des hommes, des femmes de tous âges me dire « j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux ». Et je me sens malheureux, je suis angoissée, je me lève le matin, j'ai mal aux tripes, je suis pas bien, je me sens pas à ma place, je me sens pas, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie. Même des patients me disaient, j'étais moi touchée de ça, je ne sais plus ce que je désire. J'ai l'impression d'être comme une forme de mort intérieure, de quelque chose de trop absent à l'intérieur de soi, on est absent de soi-même. Et du coup, c'est à partir de cette non-présence à soi qu'on pourrait définir le se sentir soi. Et là aussi, si je peux faire un rappel de quelque chose que je vis, une référence à l'expérience de l'hypnose, souvent dans des expériences de l'hypnose, dans des exercices d'hypnose, c'est un moment où le patient, d'une manière très corporelle, très sensorielle, me dit se sentir être là, se sentir être cohérent, être unifié, être finalement en harmonie et en accord avec le monde, sans se poser de questions. À un moment donné, on n'a plus besoin de se poser de questions. Il y a une forme d'évidence. Et ça, c'est important.
Et à propos d'hypnose, j'ai eu la chance d'être formé par le grand hypnothérapeute François Roustan.
C'est incommensurable comme chance et comme expérience.
Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, Nicole Prieur, j'évoquais les dommages collatéraux. Est-ce qu'on peut dire qu'une trahison réussie, c'est celle où on est parvenu à l'expliquer à l'autre, à la faire accepter? Dans le cas, par exemple, d'une déloyauté dans la sphère familiale, ce moment où l'enfant, le jeune adulte, va refuser d'emprunter la voie que ses parents ont tracée pour lui, pour suivre ses propres aspirations. Comment assurer le service après-vente, si je puis dire?
C'est très important ce que vous dites là. Le service après-vente, c'est très important. Et c'est là où La frontière entre ce que j'ai appelé dans mon livre, alors que c'est pas en général un mot que j'utilise couramment, mais la différence entre traite salaud et traite éthique, c'est là où ça va se jouer. Comment je gère mes trahisons? À partir du moment où elles ont été indispensables pour moi, encore une fois, où il y va de mon propre accomplissement, comment je gère, comment je ne suis pas un traître salaud? C'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment dans un retour sur ce qu'a été l'importance qu'a représenté ce lieu, que ce soit nos parents, que ce soit un couple, que ce soit des amis, reconnaître l'importance que ce lieu a eu dans mon développement. Je suis obligée de le quitter aujourd'hui parce que je me sens enfermée, mais en même temps, je reconnais ce que je dois. C'est une forme de dette que je reconnais et je suis redevable de ce lieu-là. C'est-à-dire, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais effectivement, je suis redevable. Et finalement aussi, pour aller plus loin, et c'est vraiment ce que je travaille, moi, dans le cheminement avec mes patients, je reconnais la souffrance que je peux infliger à l'autre. C'est-à-dire que je mesure qu'effectivement, dans ce cheminement qui est incompressible pour moi, irrépressible, je sais que je fais du mal à l'autre. Et si on doit dire quelque chose à cet autre-là, c'est effectivement, ce n'est pas contre toi. Je reconnais ce que tu m'as apporté. Je pense que dans l'idéal, c'est ce genre de parole qu'il faut pouvoir mettre. Je reconnais ce que tu m'as apporté. Ce n'est pas contre toi, mais il y a quelque chose qui m'amène à aller me réaliser ailleurs, etc. Ça se passe aussi dans le monde professionnel. Donc effectivement, ce service après-vente fait partie complètement de la trahison éthique.
Nicole Prieur, si je vous comprends bien, c'est à la fin de la trahison qu'on en récolte les fruits. Des fruits pourris quand cette trahison est destructrice et des fruits savoureux quand la trahison est libératrice?
Tout à fait. Tout à fait. Alors, si vous voulez, là aussi, ce que je suis amenée à travailler, peut-être dans le service après-vente vis-à-vis de soi-même, parce que justement, le traître éthique va porter une culpabilité. Combien de fois? Alors là, j'ai pu le constater dans ce que l'on peut considérer aussi comme une forme de trahison nécessaire chez les transclasses. Donc ceux qui, effectivement, les personnes qui changent
de classe. Transfuges de classe.
Voilà, transfuges de classe, qui changent de classe sociale par rapport à leur milieu d'origine ou de culturel d'origine ou alors par rapport à la précarité et leur milieu social d'origine. Ces transfuges de classe, souvent, et j'adore travailler avec eux parce qu'ils viennent souvent quand ils ont à la trentaine, vingtaine et à la trentaine, les jeunes adultes ont cette psyché encore très souple. On peut vraiment travailler avec eux, on peut vraiment les faire bouger et les faire rentrer dans ce processus de trahison éthique. Et souvent, ils viennent. Alors, ils sont très contents de ce qu'ils ont pu réaliser sur le plan professionnel. Ils sont très contents, effectivement, mais ils savent qu'ils se sentent, en tous les cas, très culpabilisés d'avoir trahi. Ils se sentent étrangers, devenus étrangers à leur propre famille. Et ça, c'est trop douloureux. Et du coup, ce que je leur dis, et du coup, là où ils se mettent en difficulté, c'est que souvent, ils sont en échec amoureux. J'ai réussi socialement, j'ai réussi professionnellement, mais quelque part inconsciemment, pour rester affilié à ma famille qui continue à galérer, je me mets moi aussi en échec, amoureux, etc. Et ils viennent avec cette difficulté de finalement pouvoir s'accomplir sur tous les plans. Et je leur dis, c'est que vous n'avez pas trahi jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas suffisamment, l'acte a été fait, vous avez quitté le milieu d'origine, mais vous n'acceptez pas que votre famille puisse vous considérer comme un traître. Et c'est là où il faut à la fois assumer que l'autre puisse nous traiter de traître.
Julien Bisson, vous parlez ici de la nécessité de trahir. Est-ce qu'il y a aussi une nécessité à être trahi? Je veux dire par là, est-ce que être trahi est une menace à notre construction, à notre accomplissement, ou au contraire, est-ce que nous avons besoin d'être trahis à certains moments de notre vie pour pouvoir grandir?
Alors, je suis tout à fait d'accord. J'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut le définir comme un besoin, mais en tous les cas, les expériences qui nous amènent à nous sentir trahis, d'abord, c'est important de mettre le mot là-dessus, hein, effectivement, et de comprendre pourquoi j'ai été trahi, parce qu'encore une fois, c'est un processus. Souvent, quand on trahit, c'est l'aboutissement, la résultante d'un long cheminement. C'est peut-être parce que je n'ai pas été suffisamment affiliée, je n'ai pas été suffisamment dans l'appartenance. Donc, j'ai envie de dire, être trahi ou trahir, ça, c'est l'aboutissement aussi de tout un cheminement. Ça ne peut pas se résumer à un acte qui explose. Donc, effectivement, quand je suis amenée à être trahie ou quand l'autre me trahit, effectivement, c'est un moment où, dans l'idéal, je peux me retourner sur moi-même et me demander effectivement en quoi je suis à côté de moi-même. Et souvent, dans les couples en tous les cas, ou même en amitié, c'est un moment où on commence à s'interroger sur nos propres besoins. Parce que quand on disait tout à l'heure, on se trahit soi-même, c'est parce qu'on ne connaît pas nos propres besoins. Et finalement, une expérience d'avoir été trahi m'amène à me dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai envie d'être? Où est-ce que je peux être? Et là, puisque vous parliez de philosophie, ça me fait penser aussi à Paul Ricoeur qui dit « se reconnaître soi-même, c'est savoir se raconter à soi là où j'ai envie d'aller, là où je suis capable d'aller, dans une véritable finalement jonction entre mes désirs et ma réalité. » Et être trahi m'amène à m'interroger sur ça. Où est-ce que je peux vraiment me situer dans mon existence et par rapport à moi-même?
Dans quelques instants, on s'intéresse aux trahisons nécessaires dans le cadre familial. Ce sera juste après Benjamin Biolay, La Superbe, à 10h24.
On reste, Dieu merci, à la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de gens dans l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque de Russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire à la flamme singulière. On gagne, on perd, on perd la guerre, la superbe. De l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste reste Dieu merci et la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, qu'on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd la gagne, la superbe. On reste Dieu merci et la merci d'un imbutable. Plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste Dieu merci à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe.
Benjamin Biolay, la superbe.
Attention, Émile, derrière vous!
Ça ne prend pas, Simon.
Grand bien vous fasse.
On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si.
Ali Rebéi.
On peut tromper une fois une... Non, on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes.
Sur France Inter.
Ça vous plaît ça, Marie-Laure Zonshine? Bon, ce matin, on s'intéresse à toutes ces trahisons nécessaires qui nous permettent de devenir soi. Par exemple, trahir son milieu familial d'origine pour enfin vivre sa vie ou trahir certaines amitiés car elles ne nous correspondent plus. Le standard vous est ouvert pour réagir à notre conversation 01 45 24 7000. Vous pouvez également réagir sur l'appli France Inter. Je vous propose d'écouter l'écrivaine Annie Ernaux.
Mon père était d'une extraction extrêmement pauvre, surtout pas dire modeste, ce mot est affreux. Et il a essayé de s'élever, difficilement, il est parvenu à une petite place. Et moi, je suis devenue professeure parce que, d'une part, lui-même le désirait, qu'il a tout fait pour que je devienne professeure, tout fait pour que je sorte de son aliénation à lui. Et j'en suis sortie, bien sûr, et je suis devenue professeure. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression vraiment d'une trahison, puisque j'avais oublié ce qui était l'héritage de gêne, de pauvreté et aussi d'absence de culture, et que je baignais dans cette culture qu'il n'avait pas. Donc il y avait une trahison, et maintenant qu'il est mort, je n'ai plus de moyens de combler cette distance aussi qui s'était établie entre nous deux. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien que les mots. Bon, c'est un faible recours.
Nicole Prieur, je rappelle que vous publiez « Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi ». Que vous inspirent ces propos d'Annie Ernaux sur France Culture en juin 1984 ?
Oui, effectivement, il y a bien une forme de trahison. En tous les cas, ça peut être lu de cette manière-là, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a un déplacement. On sort du milieu d'origine pour aller vers un autre milieu. Mais dans ce que dit Annie Ernaux, en tous les cas à ce moment-là, même si on entend une petite culpabilité, elle n'a pas à se sentir coupable. Elle était portée, ce dépassement de la classe d'origine était porté par le désir des parents, finalement. Et là, on redevient le bon enfant de ses parents. On est différent d'eux, mais on redevient le bon enfant de ses parents, puisqu'on on réalise ce qui était un désir, leur désir le plus cher. Et là, j'ai envie de dire, c'est une trahison, certes, mais là, c'est une trahison, finalement, qui remplit tout le monde dans la famille. Et elle n'est pas blessante, parce que, justement, elle apporte un plus. Et alors, souvent aussi, moi, ce que j'ai pu constater dans mes consultations, c'est que quand un membre de la famille bouge de cette manière-là, et que c'est assumé, et que c'est accepté par l'ensemble de la famille, et même, j'ai envie de dire, savouré par l'ensemble de la famille, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui bougent. On peut avoir une lecture très systémique. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Le frère qui ne trouvait pas de travail, tout d'un coup, a un rendez-vous d'embauche. La sœur qui ne trouvait pas d'amoureux. Quand à partir du moment où on assume ce qu'on peut appeler une trahison, ce déplacement, à partir du moment où c'est assumé par l'ensemble du système familial, à partir de ce moment-là, le système dans son ensemble se met en mouvement. Et souvent aussi, les trahisons, par rapport peut-être même à des missions impossibles liées au transgénérationnel, les trahisons vont faire remettre en mouvement le temps dans une famille. Et elles ont aussi ce côté positif.
Alors à propos des trahisons nécessaires dans le cadre familial, j'ai déniché cette formule dans votre livre « Qui aime bien, trahit bien
». Oui. Alors, si vous voulez, je suis partie aussi, peut-être qu'on parle beaucoup de loyauté depuis tout à l'heure, c'est peut-être intéressant de justement, « Qui aime bien, trahit bien ». Pour moi, ça, c'est dans le système parent-enfant, hein, dans les interactions parent-enfant. Et peut-être qu'il faut un peu expliquer aussi pourquoi cette notion de loyauté et pourquoi les loyautés sont à trahir à un moment donné. Si vous voulez, dans une famille, le lien éthique, c'est comme ça que je l'ai appelé, se construit autour de ce que j'ai aussi appelé le don, le dette et la loyauté. C'est-à-dire que dans une famille, et ça je suis partie de l'analyse de l'anthropologue Marcel Mauss, hein, qui a fait effectivement toute une analyse sur comment les liens se tissent à travers les différentes peuplades, hein, à travers les différents groupes. Et il a mis en évidence trois mouvements importants dans les relations pour qu'elles soient entretenues. Le donner, je donne à quelqu'un, le recevoir, c'est une autre position, donc quelqu'un qui le reçoit, et ce quelqu'un, s'il a envie que la relation se poursuive, rend. Hein, donc ce sont les trois mouvements. Et dans la famille, entre parents-enfants, ces trois mouvements commencent par le don. Hein, effectivement, le lien dans la famille commence par un don, le don de la vie. Alors quand je parle de don, ça peut être aussi bien l'amour, les bonnes intentions, mais c'est aussi la névrose familiale. Hein. Les traumas de la famille, tous les non-dits, enfin tout ce que vous voulez. Mais du coup, ce qui est important à retenir, c'est que le don, immédiatement, crée des dettes. Le bébé n'a pas sitôt crié son premier cri qu'il est déjà endetté vis-à-vis de sa famille. Et rendre dans une famille, il s'agit pas de rendre évidemment des parents, hein. On n'attend pas que l'enfant nous rende, voilà. Mais rendre, c'est répondre aux demandes, hein, aux attentes de la famille. Hein. Je voudrais que tu sois un grand artiste, etc. Et être loyal, c'est être le bon enfant, l'enfant parfait de ses parents. Et justement, si j'aime mes parents, je vais accepter qu'ils m'autorisent finalement, parce que c'est tout, de ne pas être l'enfant parfait. Et c'est ça la première trahison. C'est m'autoriser à ne pas m'accepter comme ne pouvant pas être l'enfant parfait de ses parents. Et ça, quand on en parle avec les patients, qu'est-ce que ça les libère ?
Grande précision, hein, on ne mettra pas toutes les trahisons sous le même toit, on n'évoquera pas ici, et vous ne l'évoquez pas dans votre livre, les hautes trahisons que sont la maltraitance, l'inceste, les abus sexuels, la violence physique ou morale. On s'intéresse ce matin à ce que vous appelez les trahisons familières.
Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup ce mot familière, parce qu'effectivement, c'est celle qui se passe dans un univers plutôt, encore une fois, de bons sentiments, d'affection, etc. Les autres trahisons que j'appelle plutôt, moi, des traîtrises, c'est-à-dire des trahisons qui ne sont que destructrices et qui font exploser à la fois les personnes et les groupes, ces trahisons-là méritent effectivement un autre travail. Et finalement, même ces trahisons-là, on peut y réfléchir, mais parce que finalement, on peut renaître après une trahison. Mais c'est un autre propos.
Expliquez-nous ce paradoxe. Vous écrivez, même quand on veut être loyal, on demeure déloyal. La loyauté implique inévitablement la déloyauté.
Encore une fois, si on reprend l'exemple de l'enfant dans sa famille. L'enfant, alors il y a aussi, c'est tout le paradoxe de la relation parent-enfant. Dolto disait, ou même Winnicott, hein, qui est un grand...
Donald Winnicott.
Donald Winnicott disait qu'un enfant, pour exister, a besoin d'être rêvé. Donc on a besoin effectivement de porter sur un enfant nos rêves, nos projections, on a besoin de lui demander de réaliser pour nous aussi un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire, de venir réparer. Tout cela, tout ce corpus en fait finalement d'attentes sur un enfant sont tout à fait nécessaires. Mais à un moment donné, et c'est ça où les trahisons rentrent en scène, à un moment donné, pour être soi, pour grandir, pour devenir ce que j'ai à devenir moi, à ce moment-là, effectivement, je dois m'opposer à une partie de ces projections. Je dois faire le tri entre celles qui m'accompagnent et qui m'accomplissent effectivement et celles qui ne sont que l'expression des besoins des parents. Et je ne peux pas, là aussi dans les trahisons nécessaires, c'est accepter à un moment donné, ce n'est pas toujours facile, qu'on ne puisse pas sauver ses parents. À un moment donné, accepter qu'on ne peut pas réparer leur existence.
Nicole Prieur, donnez-nous des conseils pour assumer cette inévitable déloyauté. Comment assumer cette culpabilité liée liée à cette déloyauté?
Alors c'est vrai que dans mon livre, ça a été aussi, vous parliez de Fabrice Midal qui était à l'origine un petit peu de ce projet ou de la réactualisation de ce projet, parce que je travaille là-dessus, sur ce thème-là depuis une quinzaine d'années. Sur ses conseils, j'ai fait un petit livret pratique où j'accompagne, si vous voulez. Voilà. Et alors c'est très drôle aussi parce que quand j'ai offert ce livre à mes enfants et à mes petits-enfants, à mon frère, etc., les jeunes générations, donc les 18, 20, 25 ans, se sont saisis du livre et ont fait le livret pratique. Je ne sais pas s'ils ont lu le livre, je ne veux pas le savoir, mais ce sont, voilà.
Alors, et des donc, conseils.
Effectivement, des conseils. Je crois que, et c'est bien une synergie, je pense qu'une relation heureuse, et on est là pour en parler, une relation qui permette finalement qu'on ne se sente pas trahi et qu'on ne trahisse pas trop l'autre à notre insu, je pense que c'est une relation où on arrive à se décentrer par rapport à soi-même. C'est-à-dire se poser vraiment la question, alors on peut pas se la poser tout le temps, hein, mais à des moments, quand on sent que l'autre est en souffrance, quand moi je commence à être en souffrance ou à être angoissée, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? François Roustan disait, la souffrance vient quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas là où on a besoin d'être. Donc c'est inévitable cette souffrance-là, je veux dire, on peut pas éviter de la voir. Mais ce qui est important, c'est à partir de ce moment-là, où est-ce que je suis? Pourquoi je suis en décalage par rapport à ce que j'ai envie de faire? Pourquoi est-ce que l'autre est en souffrance, mon fils? Pourquoi il a des difficultés à l'école alors que c'est un garçon brillant? Est-ce que je veux trop pour lui? Je veux dire qu'une relation épanouissante, pour tout le monde, c'est une relation où on s'interroge sur la singularité de l'autre. Et on arrive à la reconnaître, on arrive à l'assumer. Et moi, en tant que telle, j'arrive aussi à affirmer ce que j'ai envie d'être. C'est pas toujours facile, hein.
Nicole Prieur, je vais vous lire le long mail de Sirius, oui, sur notre page Facebook. Je ne sais pas si ça rentre dans le thème. Je n'aime pas ce mot de trahison, mais j'ai coupé les ponts avec mon père depuis plus de 2 ans. De mon point de vue, c'est lui qui a trop souvent trahi ma confiance, trahi notre relation. Je souffrais de cette relation. J'ai pris sur moi pendant des années, me contentant de faire acte de présence au repas de famille sans vouloir participer. On me parle parfois des liens sacrés pour me faire revenir vers lui, mais cet argument du sacré n'a pas de sens selon moi. Il sait articuler les fils de la culpabilité, une de ses méthodes favorites, et se sert de nos proches pour me faire passer ses attentes. Mais l'entendre dire récemment qu'il n'a toujours pas compris la rupture au bout de 3 ans et des pavés envoyés par mail ne me donne pas la moindre envie d'une reprise de contact. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie et dans ma peau que depuis cette coupure.
Et oui, c'est ça. Et c'est bien de ça, pour moi, ça relève effectivement de la trahison. Et c'est vrai qu'il y a dans la trahison, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. Dans la trahison, il y a quelque chose qui est aussi qui peut être très douloureux pour celui qui se sent trahi. C'est que on a forcément, et c'est la difficulté de l'acte de la trahison, c'est que il ne peut pas y avoir de consensus sur le vécu et la représentation de la trahison. Ce monsieur, je n'ai pas retenu son prénom.
Sirius.
Donc Sirius, effectivement, a une vision personnelle et tout à fait juste, hein, de cet acte qui était nécessaire. Moi, quelquefois, j'ai dit aux patients, c'était vital pour vous. Hein, donc, ça libère la culpabilité. On se libère de la culpabilité en mesurant que c'est vital pour soi. Mais cet acte-là, qui est vital pour lui, ne peut pas être vécu de la même manière de la part d'un parent qui, en plus, ne comprend pas forcément les choses. Et comme vous disiez tout à l'heure, Marie-Laure, on peut quelquefois expliquer, mais quelquefois, les parents se sentent tellement remis en cause par cet acte-là, ça les renvoie quelque part à leur propre fragilité. Si Cyrilus avait l'impression d'être trahi, le père peut-être n'était pas prêt à assumer cette vulnérabilité qu'il a portée dans la famille. Et finalement, vouloir en discuter avec les parents qui peuvent entendre ça, ce sont les parents qui sont déjà, qui ont une belle assise identitaire et qui peuvent entendre finalement qu'ils ont fait du mal sans s'en rendre compte.
Question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, vous parliez tout à l'heure, Nicole Prieur, du don, de la dette. J'ajouterais quoi qu'il en coûte.
Oui, c'est clair.
Est-ce qu'on peut dire que la trahison est forcément consciente? Vous parliez tout à l'heure aussi de l'hypnose. Est-ce qu'on a conscience de ce processus, de ce cheminement, ou parfois de ce fait générateur qui fait qu'on va verbaliser, passer à l'action et trahir oui. de manière nécessaire.
Oui, oui. Non, justement, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, et parce que on n'en a pas conscience, parce que, si vous voulez, ce thème-là, c'est aussi un thème, on parlait tout à l'heure, on a parlé de l'argent aussi. Hein. Ce sont deux thèmes sur lesquels on s'est mis à travailler, parce qu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait rien d'écrit. Et moi, j'adore travailler sur des terres vierges où personne n'arrive un peu réfléchi, parce que moi, je ne prends pas trop de risques, peut-être. Mais en tous les cas, effectivement, ces trahisons, ça me semble être important de donner les moyens aux gens de pouvoir mettre des mots là-dessus et de mieux comprendre le processus pour justement ne pas se piéger soi-même. Et quelquefois, l'autre jour, j'étais dans un groupe de formation avec des psys et un psy me disait, mais là, je suis dans une situation où je suis obligée de me trahir moi-même. Parce que du coup, le processus est tellement complexe qu'effectivement, elle qui est qui travaille à ne pas se trahir, était coincée en me disant « Mais là, dans cette situation, je vais être amenée à me trahir moi-même. » J'ai dit « Mais effectivement, c'est complexe. » Et à un moment donné, aussi, il faut accepter qu'on se trahisse soi-même au nom, si vous voulez, de quelque chose de supérieur. Et dans l'exemple que vous avez cité, j'aime bien la notion de sacré. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais la notion de sacré, je prends appui, vous allez voir que je vais très large, très loin, je prends appui sur ce que a entendu Abraham de la part de Dieu. Dieu dit quelque chose de formidable, il ne le dit pas toujours, des choses formidables, mais là, il dit à Abraham, « Va vers toi ». C'est comme un ordre. Je crois qu'on a une assignation. Vous demandiez comme tout à l'heure comment c'est être soi. Une assignation, à mon sens, rudement importante et spirituelle, d'oser réaliser ce qu'on a à réaliser soi-même.
Message léger de Camille qui nous écrit « Je me sens trahi lorsque mon conjoint regarde la suite d'une série sans moi, alors que nous avions prévu de la regarder à deux et de s'attendre pour la suite des épisodes. » Je vous comprends, Camille. 10h42, il est l'heure de retrouver les choses presque vues de Julien Bisson.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Julien Bisson.
Eh bien, d'abord, je dois vous dire que si l'accent de ma voix trahit ma fatigue du moment, sachez que c'est bien malgré moi et que j'aurais préféré vous offrir un timbre sonore, ce timbre de ténor qui ne vous trahit jamais, vous, mon cher Ali. Alors, en découvrant le thème de l'émission, j'ai instinctivement pensé à Koh-Lanta, le jeu phare de TF1, un programme que je suis assidûment depuis de longues années, même si ça, j'imagine que vous en fichez. Koh-Lanta, c'est une drôle d'émission dans laquelle une vingtaine d'aventuriers doivent tout supporter. La faim, le froid, la pluie, les insectes, ceux qui vous dévorent ou ceux qu'il faut dévorer, ou bien le privilège assez discutable d'être suivi partout par une caméra de télé. Mais il y a une chose plus insupportable encore que toutes ces calamités, un élément pire que les autres qui déchaîne les passions et attise les rancunes les plus féroces. Je veux bien sûr parler de la trahison. Car dans Koh-Lanta, il faudrait pouvoir donner sa parole et savoir la tenir afin d'avancer avec ses coéquipiers. Et c'est là toute l'étrangeté de ce jeu, où il s'agit de convaincre les autres de voter avec soi avant de finir un jour ou l'autre par devoir les éliminer. Personne ne doit sortir du rang, sous peine d'être convaincu de trahison et passer devant une cour martiale, qu'on appelle ici plus sobrement le conseil. Et généralement, les candidats optent en pair par peur d'être rangés parmi les traîtres, quand bien même ils courent ainsi à leur perte. Car Koh-Lanta n'est pas un concours de vertu, non, c'est un jeu. Un jeu où chacun doit savoir jouer avec ses armes pour être l'ultime survivant et rafler au passage la coquette somme promise au vainqueur. Savoir jouer donc, même si cela signifierait parfois se jouer des autres, à commencer par les gros bras et les têtes de vainqueurs qu'on gagnera à faire sortir. Mais non, la trahison est si mal vue qu'elle reste bien souvent l'apanage des soi-disant stratèges, vite repérés, vite éliminés. Alors cette réticence au coup fourré et aux filouteries est d'autant plus amusante que dans l'émission américaine Survivor, la version originale de ce jeu télévisé, la trahison y est non seulement acceptée, mais elle est applaudie, y compris par celui qu'on vient de sortir après 30 jours de camaraderie. La trahison y est célébrée comme on le ferait d'un geste technique ou d'une belle attaque aux échecs. Et le plus souvent, on en rigole même, fidèle en cela, à la maxime de l'écrivain français Casamayor dans L'Art de trahir, « Trahissez toujours gaiement et vous trahirez la trahison elle-même ». Bref, on y accepte que l'émission soit un jeu, quitte à être un jeu de dupes.
Et est-ce que cela voudrait dire que nous sommes en France plus susceptibles qu'ailleurs à la trahison?
Non, je n'irai pas jusque-là. Je dirais plutôt que la trahison est une idée propre à chaque culture, que chacun y réagit selon un imaginaire commun et que la France n'y fait pas exception. Au pays de Talleyrand, on arrive volontiers à pardonner certains mensonges, reniements ou tromperies quand il est admis que ceci soit permis. Pour juger d'une trahison, nous sommes donc sujets à un ensemble de valeurs dont nous ne pouvons pas facilement nous défaire, ni nous, ni nos candidats sur leur île lointaine. Mais est-ce que ça signifie dans la même logique que nous pouvons tous être amenés à trahir à condition de respecter les codes de notre culture? Que nous sommes tous des Iago en puissance, des Judas pleins de baisers à revendre, des Ganelon, des Brutus qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur ouvre la porte, comme le traître Éphialtès ouvrit celle qui permit aux Perses de vaincre les 300 Spartiates au défilé des Thermopyles. Alors je n'ai pas dit cela. Mais je dis qu'il nous est tout de même difficile de ne jamais trahir ou d'en faire même la promesse. C'est qu'il y a dans la trahison quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui donne de nous davantage qu'on ne le voudrait. Du point de vue de l'étymologie, vous l'avez rappelé en début d'émission, Nicole Prieur, trahir vient du latin tradere, dérivé de dare, dare, le verbe italien donner. Trahir, ce serait donc donner malgré soi. C'est toute la différence avec la tradition, comme vous l'avez dit, qui relève de la même étymologie. La tradition, c'est ce qu'on transmet consciemment, la trahison, c'est ce qu'on abandonne sans le vouloir. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous la rend si proche, si familière, parce qu'elle révèle quelque chose de caché au fond de nous. Mmh. La psychanalyste Anne Dufour-Mantel jugeait ainsi que la trahison était parfois une manière de se perdre au plus près de soi. Ah oui. Et je ne crois pas trahir votre propos, chère Nicole Prieur, en voyant dans votre ouvrage cette même assertion, qu'il faut essayer d'être fidèle aux autres, mais qu'il faut davantage encore l'être à soi-même, à ses valeurs, à ses convictions, à ses passions. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il me faudrait moi-même rester fidèle aux miennes. Ça tombe bien, je crois que ce soir, il y a Koh-Lanta.
Réaction Nicole Prieur en quelques mots.
Ah, j'adore tout ce que vous venez de dire, ça résume tout à fait. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'a finalement pas beaucoup parlé aussi de l'importance à donner à la place des autres. On a parlé de la singularité, mais c'est vrai que ce que vous dites quelque part rejoint aussi ce que j'ai pu développer, c'est-à-dire que la notion de cette trahison, je crois qu'il faut comprendre qu'elle est... que c'est un processus complexe, hein, qu'effectivement elle est toujours pleine de nuances, hein, et elle peut se retourner en son contraire. Et j'aime bien quelquefois dire que finalement on existe dans une tension éthique, si on veut respecter l'éthique justement, entre ce à quoi je dois renoncer pour respecter l'autre, mais ce à quoi je ne peux pas renoncer pour me respecter moi-même. Et ça, c'est toujours dans un mouvement finalement ambigu, ambivalent, et je pense que notre liberté finalement et notre éthique, elle se situe dans cette tension-là.
Les choses presque vues de Julien Bisson à podcaster sur l'appli France Inter, et on salue Éric Libiot en ce moment au Festival de Cannes. Dans quelques instants, on s'intéresse aux trahisons nécessaires dans la fratrie et dans le domaine de l'amitié. Ce sera juste après avoir écouté le nouveau titre d'Adèle, Cry Your Heart Out.
Cry your heart out, it'll clean your face. When you're in doubt, go at your own pace. Cry your heart out, it'll clean your face. When you're in doubt, go at your own pace.
titre d'Adèle, Cry Your Heart Out.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse à toutes ces trahisons nécessaires qui nous permettent de devenir soi. Nicole Prieur, dans votre livre, vous consacrez un chapitre à la fratrie. La fratrie à l'épreuve du temps et de la mort des parents. Alors, rappelons rapidement que l'aventure fraternelle participe à la construction de notre identité.
Tout à fait, tout à fait. Oui, ce qu'on vit avec nos frères et sœurs nous construisent.
Alors, de nombreux mythes fondateurs dans de nombreuses civilisations évoquent les grandes trahisons. Dans la fratrie, on se souvient évidemment d'Abel et Caïn. Le lien fraternel peut connaître des traîtrises à certains moments clés, notamment au moment des successions. Les études de notaire résonnent de conflits ravageurs entre frères et sœurs, absolument terribles, et où le lien fraternel en prend un coup et où il y a des trahisons qui peuvent apparaître au grand jour.
Tout à fait. C'est un moment, effectivement. J'ai envie de dire, ce n'est pas toujours un moment destructeur, mais c'est toujours un moment d'épreuve pour la fratrie. La fratrie va être réinterrogée. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe psychiquement, qu'est-ce qui se passe au moment de l'héritage? C'est que, vous savez, la relation fraternelle, on a mis en évidence ce qu'on a appelé la calculette inconsciente. C'est-à-dire, le lien fraternel se construit depuis l'origine, depuis que le petit frère naît ou la petite sœur arrive.
Tu as ça et pas moi, je veux la même chose.
Tous les compte, toi t'as un bonbon de plus, t'as une histoire de plus, etc.
Et vous écrivez d'ailleurs, juste une petite parenthèse, que la relation fraternelle est d'emblée placée sous le signe des comptes et des mécontentements.
Tout à fait, tout à fait. Parce que, si vous voulez, là aussi j'étais frappée dans mon expérience de psy, j'ai rencontré plusieurs fois des adultes de 50, 55 ans, je veux dire bien établis dans leur existence, etc., et qui parlaient du cadeau qu'ils n'avaient pas eu à leurs 10 ans, avec une émotion comme si c'était d'hier. C'est-à-dire que ces mécomptes-là sont enregistrés dans cette calculette inconsciente.
C'est une véritable cocotte-minute qui mijote pendant des années.
Tout à fait. Et tant que les parents sont là, il y a l'injonction « tu t'entendras bien avec ton frère, avec ta sœur ». Donc la cocotte-minute, elle est un petit peu éteinte, et elle est dans les cas sous contrôle. Et au moment où les parents ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir tendance à présenter au frère ou à la sœur la facture de ce que je n'ai pas reçu de mes parents. C'est-à-dire que je vais vouloir me servir de... Donc, il y a un retour du refoulé, de cette calculette inconsciente. Je vais me rendre compte que avoir encore plus de souffrance de ce que je n'ai pas reçu de la part de mes parents. Et du coup, je vais avoir tendance à vouloir me servir, à prendre... C'est la relation fraternelle aussi, c'est quelquefois... Elle n'est pas construite dans le don, elle est construite sur un antidon. C'est-à-dire que je garde pour moi plutôt que de donner à mon frère et la sœur. C'est-à-dire que la relation fraternelle, il n'y a pas un lien éthique d'emblée. Il faut accepter de vouloir partager avec l'autre. Donc au moment de l'héritage, l'héritage est une aubaine pour l'inconscient parce que je vais pouvoir accaparer et prendre à l'autre ce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu suffisamment pendant mon enfance.
Et au moment de l'héritage, la mort des parents interroge l'appartenance à la fratrie avec cette question très très dérangeante. Qu'ai-je en commun finalement avec ce frère ou cette sœur, avec la tentation de s'éloigner et de trahir ce lien?
C'est ça. Finalement, on parlait des évolutions différentes des uns et des autres. Combien de fois j'ai entendu des personnes d'une même fratrie me dire « mais je continue à le voir au moment des fêtes, on continue à être réunis dans la famille, mais je n'ai rien en commun ». Et je ne pourrais même pas être amie avec lui. Donc effectivement, au moment où le parent disparaît, où les parents disparaissent, on est réinterrogé au niveau de la filiation. Est-ce que j'ai envie d'appartenir à cette famille encore? Parce que le lien fraternel, c'est le lien à l'origine. Et quelquefois, on a été tellement malheureux dans sa famille que couper aussi avec ses frères et sœurs, quelquefois aussi même renoncer à l'héritage, c'est dire je ne veux plus appartenir à cette famille.
Vous conseillez de faire des efforts pour maintenir ce lien, pour ne pas le trahir, ou au contraire de couper. Alors évidemment, toutes les situations sont singulières, mais...
Alors si vous voulez, c'est vrai que quand on coupe avec un lien, c'est toujours coûteux psychiquement. C'est-à-dire que quelque part psychiquement, il y a une partie de soi qui en paye quelque chose, qui paye quelque chose. Donc effectivement, souvent moi ce que j'ai constaté, c'est que les frères et sœurs qui se sont suffisamment entendus du vivant des parents arrivent à se parler. Et quelquefois, moi je conseille aussi carrément de profiter de situations de médiation, de faire intervenir un tiers, comme dans des situations de médiation, pour s'entendre un petit peu comment on va se partager justement, comment on va recevoir cet héritage-là. Mais quand ça bute vraiment et quand ça devient vraiment à des ruptures, c'est que un des frères, une des sœurs, ne peut pas se remettre en cause et vit avec une. Il faut comprendre qu'il y a de la souffrance dessous, hein, qu'il y a une telle souffrance qu'il n'a pas élaborée, qu'il n'a pas dépassée, qu'il va faire en sorte que le lien ne peut pas continuer. Donc il faut accepter qu'il ne puisse pas continuer à un moment donné.
J'aimerais qu'on évoque en quelques mots la trahison amicale. Il faudra consacrer une émission entière à cette question-là. C'est souvent vécu comme quelque chose d'absolument terrible, mais ça permet, ces trahisons amicales, de se remettre en question. Finalement, quel ami suis-je? Quels défauts peuvent être insupportables pour les autres? Suis-je un aussi bon camarade que je ne l'imagine? Ça pose ces questions-là quand on est trahi, quand quelqu'un nous tourne le dos pour X raisons.
Tout à fait. Et là aussi, j'étais très étonnée. Les patients me parlent. Alors, ils ne viennent pas consulter hein, pour des trahisons en amitié, mais ils me parlent des trahisons en amitié avec une souffrance vraiment très, 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 très aiguisée. Hein. Je veux dire, vraiment, c'est très douloureux. Il y a une remise en cause parce que l'ami c'est quand même l'autre soi-même hein, avec lequel il y a une entente souvent très immédiate et voilà et souvent la trahison déjà ça commence par le sentiment d'en faire plus que l'autre et qu'il n'y ait pas de réciprocité là déjà il y a une souffrance et effectivement moi je trouve que l'expérience de la trahison même en amitié ce qu'elle peut nous apporter c'est elle nous amène souvent à être très tolérant. Finalement, l'ami aussi, c'est quelquefois un témoin des amis d'enfance, même si on diverge par rapport à beaucoup de choses, c'est le témoin de notre existence. C'est donc finalement un lien avec notre passé, avec notre histoire, donc il a de l'importance. Et même si je ne m'entends pas, même si j'ai l'impression que j'en fais plus que lui, et que je n'ai pas de retour, et qu'il ne répond pas à mes demandes, etc., il représente comme un continuum dans mon existence. Et ça, psychiquement, c'est important. Donc on va finir par apprendre, quand tout peut se passer bien, à être tolérant. Ok, je continue à le voir parce que ça a du sens pour moi, parce que c'est important, mais j'accepte ses défauts, je l'accepte comme il est. Donc c'est une belle expérience aussi de fraternité finalement au niveau de l'amitié.
Et nous en reparlerons dans une autre émission. Merci beaucoup Nicole Prieur d'être venue dans cette émission. Je recommande vraiment Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi. C'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup Marie-Laure Sunshine et Julien Bisson. Demain, peut-on se passer de doudou quand on est enfant et même quand on est adulte? Beaucoup d'adultes ont des doudous. Julien Bisson, je ne sais pas si vous avez un doudou, Marie-Laure Sunshine non plus. Vos témoignages et vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter et dès 9h au 01 45 24 7000.